HashiCorp est un éditeur logiciel bien connu par les équipes de dev, d'ops et de sécurité pour des outils comme Vagrant, Terraform ou encore Vault. Ce que ces outils ont en commun, c'est d'une part d'être simples à utiliser et d'autre part de répondre à une problématique bien précise et à une seule. Or ces dernières années, ce ne sont pas les problématiques qui ont manqué. Entre l'explosion de nouvelles solutions dans l'écosystème cloud natif d'un côté et le travail à distance de l'autre, difficile de savoir où donner de la tête. Fort heureusement, chaque problème a sa solution. J'ai justement le plaisir de recevoir cette semaine Nicolas Herman, qui est solution engineer chez HashiCorp, et ensemble, nous discutons des deux dernières nouveautés qui ont été annoncées en fin d'année dernière par HashiCorp, Waypoint et Boundary. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir m'attribuer 5 étoiles dans votre application de podcast. Ça m'aide à le rendre plus visible et à le faire découvrir par d'autres personnes. Si cela vous tente, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. C'est pour moi une vraie source de motivation, mais ça permet également à ceux qui ne connaissent pas ElectroMonkeys de se faire une idée sur le podcast. Alors, un grand merci d'avance. Nicolas, bonjour, bienvenue.
Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir dans ton podcast.
Avec plaisir. Tu travailles pour HashiCorp, alors est-ce que tu veux bien nous présenter un peu HashiCorp ?
Ouais, avec plaisir. Je ne vais pas prendre trop longtemps, mais c'est juste pour refaire un peu, de savoir qui on est, d'où on vient. Donc HashiCorp a bientôt 8 ans maintenant, vu que le temps passe vite. Ça a été créé en 2012 par deux copains. C'est marrant parce que c'est vraiment l'histoire des startups à l'américaine que tu vois dans des films ou des séries. Ça a été créé par donc deux collègues, deux étudiants qui sont Michel Hashimoto et Armand Dadgar et qui sont aujourd'hui toujours nos CTO et qui sont toujours bien sûr partie prenante de HashiCorp sur une idée simple qui était en fait de résoudre des problématiques liées à l'adoption du cloud dans toute sa splendeur et toute sa grandeur, on va dire, parce que c'est un sujet assez complexe. Et donc, ça a commencé, en fait, tout simplement avec des petits outils open source qui sont, pour les premiers, qui sont Packer et Vagrant. Packer pour tout ce qui est création de workflow d'images, pour construire des images, de faire une image factory, d'une certaine manière. Vagrant qui était plus orienté, pour le coup, développeur, et c'est justement un des sujets qu'on abordera aujourd'hui, le fait que HashiCorp se remet un peu à faire des outils pour les développeurs et non plus que pour les ops, parce que c'est un peu les outils qu'on a jusqu'à aujourd'hui.
Bonne nouvelle.
Oui. on revient un peu à nos premiers amours, on va dire. Et après, voilà, on a en fait étendu ces possibilités-là avec des outils très connus aujourd'hui, que sont Terraform pour tout ce qui est l'abstraction de provisioning pour tout type d'infrastructure cloud, on-prem et autres. Vault qui est un peu un standard aujourd'hui dans tout ce qui est la gestion des secrets et protection de la donnée. Consul qui vient on top de tout ça, parce qu'on a divisé ça en 4 piliers, sur tout ce qui est l'automatisation des réseaux, ce qui est pas simple, et l'automatisation des réseaux et la découverte des services et justement la scalabilité aussi dans un environnement multi-cloud. Et le petit dernier, qui n'est plus si dernier que ça maintenant parce qu'il a atteint quand même la version 1.0, ce qui est une énorme étape chez HashiCorp, parce que pour rappel, en Terraform on est en 0.14, donc il y a eu quelques itérations depuis. D'ailleurs on arrive aussi bientôt en 1.0 sur Terraform, mais attention spoiler. Donc Nomad qui est notre offre de scheduler et d'orchestration de tout type d'application sur tout type d'environnement. Et bien sûr, en fait, et c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui, c'est des annonces qui ont été faites lors de la HashiConf US durant le mois d'octobre, qui sont deux nouveaux outils qui viennent compléter, je dirais, le portfolio que l'on a aujourd'hui. Un qui s'appelle Boundary, qui est orienté justement humain vers machine et comment connecter les gens en fait à leurs applications et accéder à leurs machines sur des environnements zéro trust, donc qui devient de plus en plus le standard aujourd'hui, et Waypoint qui est plus justement orienté dev et comment simplifier la vie du développeur dans tout ce qui est son workflow de déploiement applicatif.
Très bien, alors en plus tu as fait la petite présentation synthétique des produits, alors on va commencer par Boundary. Et tu parles de Zero Trust. Est-ce que tu peux rappeler un peu le concept de Zero Trust ?
Ben, en fait, c'est assez simple. On part du principe aujourd'hui qu'on ne peut pas se baser sur un réseau qui est, entre guillemets, de confiance. Là où jusqu'à présent, on avait en fait quelque chose, on partait d'un postulat qui était « Toutes mes machines sont dans un réseau que je contrôle, elles sont chez moi, dans mon data center, donc je contrôle qui a accès. » Donc, j'avais principalement des firewalls périmétriques et tout ce qui était à l'intérieur était trusté par défaut. Donc, on se rend compte, en fait, que c'est justement, c'était déjà un problème à l'époque, parce que, justement, les attaques venaient plus souvent de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc, ce qui fait qu'on pouvait même, de ce fait, ne pas truster ce qu'on avait en interne. L'avènement du cloud et le fait qu'on a, justement, un éclatement des ressources qui se retrouvent sur plein d'environnements différents que l'on ne maîtrise plus en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus l'infrastructure, on ne maîtrise plus qui a accès à quoi en termes physiques, ne serait-ce que... Moi, je ne sais pas qui vient dans les data centers d'Amazon ou de Google changer un disque ou se connecter avec son laptop et faire quoi que ce soit. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, je ne peux plus partir du postulat que ma machine, par exemple, peut se connecter à un réseau et elle est trustée d'office. J'oublie ça, j'oublie cette manière en fait de faire, et donc je dois avoir un autre système qui va être plutôt basé du coup sur de l'identité. Et donc c'est justement là où l'IAM et tout ça va rentrer en compte dans justement ce type d'autorisation et de gestion des accès à différentes infrastructures.
Ok, et donc le Zero Trust se base sur l'identité, comment ça fonctionne grossièrement?
Alors aujourd'hui, en fait, c'est ce que l'on va avoir, c'est du coup, tu vas, en tout cas dans le système dans lequel on fonctionne, mais c'est ce que l'on peut retrouver, je pense aussi ailleurs, c'est on va utiliser ta propre identité. Donc ta propre identité, ça peut être un compte, ça peut être le fait d'avoir une connexion justement. Par exemple, imaginons, j'ai la possibilité de me connecter avec mon compte LDAP. Mon compte LDAP, il va être validé. C'est-à-dire que je n'autorise pas tout de suite mon utilisateur et mon mot de passe à me connecter directement sur une machine. J'ai d'abord le fait que l'on va contrôler que cette identité est bien valide et y associer, bien sûr, des droits qui ont été configurés. Et donc, on va partir, en fait, sur une approche qui va être, de base, le least privilege, c'est-à-dire le moins de droits possible, pour te donner juste accès à ceux dont tu dois avoir accès et pas à l'entièreté du système. Ce que l'on retrouve, malgré tout, aujourd'hui dans des aspects plus traditionnels basés sur des VPN, où là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'on fait? On te donne un client, ce client, tu te connectes, et en général, il t'ouvre le réseau quasiment entier de ton entreprise, et alors que tu as besoin d'accéder qu'à un sous-ensemble de machines ou d'applications.
Donc, j'ai besoin d'accéder à une machine, plutôt que de le faire par VPN où je vais avoir accès à un réseau et pas à une machine.
Oui.
Et que même si je n'ai pas les droits sur une autre machine, si je voulais être malveillant, peut-être je pourrais...
On peut
prendre le contrôle d'une autre machine. Mmh. Là, par contre, en vérifiant mon identité et mes droits, on m'autorise uniquement à aller vers la machine sur laquelle je peux agir.
Exactement. Si je comprends bien. Exactement. Et on va même ajouter en fait quelque chose d'un peu plus intéressant, qui est la proxification, c'est-à-dire le fait que c'est pas toi qui te connectes directement à la machine, c'est tu vas passer à travers un proxy qui lui va faire cette connexion. Donc en fait, du coup, je n'ai plus aucune machine interne qui ont une gestion de port compliquée avec un firewall qui doit vérifier tous les flux et ouvrir des machines sur Internet. Donc ça, déjà, c'était une première problématique à laquelle on répondait avec des bastions. D'accord, c'est pour ça qu'on avait des bastions, justement. C'était pour éviter qu'on ouvre toutes les machines en SSH ou en RDP et que ce soit la fête à la saucisse partout. Parce que là, du coup, on se retrouve assez rapidement compromis sur Internet. Donc, il y a eu cette histoire de bastion. Mais maintenant, la problématique du bastion, c'est que ça reste compliqué à scaler. Ça reste compliqué à maintenir. C'est des appliances, souvent black box, qu'il faut ajouter, configurer. Ça rajoute, en fait, de la complexité à tout ça. Et ça répond pas à toutes les problématiques, on va dire, modernes aujourd'hui, parce qu'on doit toujours gérer ses clés, il y a toujours beaucoup de choses qui sont problématiques par rapport à ça. Donc là, en fait, le but de Boundary est donc le but, en fait, des solutions qui existent déjà, parce que Boundary, on va pas dire que ça révolutionne le marché, c'est des choses qui sont déjà existantes et qui ont été notamment, et c'est marrant parce qu'avant de ce podcast, on parlait de sujet Google. Google a été très novateur sur pas mal de choses et notamment sur aussi cette approche Zero Trust et donc les clouds en général, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent depuis un moment. Et Beyond Corp, c'est quelque chose en fait qui a déjà été fait et qui a à peu près cette approche, le fait de proxifier en fait les accès d'un utilisateur basé, comme je disais, sur son rôle IAM, lui-même attaché à un modèle RBAC, donc avec des politiques en fait d'accès, un scope bien défini, et en fait le fait que ce soit un proxy qui se connecte à la machine et qui proxifie cette session à travers le client qui se connecte. Et donc pas une connexion directe avec les machines.
Tu as donné les avantages du Bastion, mais il y a énormément d'inconvénients. Donc une seule machine avec potentiellement des gens qui ont mis des clés, potentiellement pas mal d'informations de sécurité, et surtout un droit d'accès à peu près à toute l'infrastructure.
Oui.
Parce que c'est l'autre souci, c'est de se dire que le Bastion est rarement scopé juste sur une petite partie de l'infrastructure.
Mmh, tout à fait.
Là, en revanche, en partant sur une approche proxy, on ne vise que la cible.
Exactement, exactement. Donc effectivement, bon, malgré tout, ce worker, et ce proxy, en fait, lui, a un accès un peu plus large, mais c'est déjà, on n'expose pas des ports compliqués, des ports, on ne se connecte pas en SSH sur cette machine. Bien sûr, c'est hardonné. La particularité que ça a aussi dans ces nouvelles approches plus orientées cloud quand même, c'est que justement, on a cette scalabilité horizontale des workers qui est nativement intégrée dans la solution. Donc, je parle de Boundary, mais c'est plus en général. Et donc, il permet justement de pouvoir absorber cette charge. Et c'est justement un problème que l'on voit et qui a été un gros problème cette année, c'est que énormément d'entreprises ont même communiqué sur le fait que le home office était compliqué parce que leurs infrastructures n'étaient pas prêtes pour supporter la massification des accès depuis l'extérieur à leurs infrastructures internes. Et donc, ce qui a amené en fait l'explosion de ce type de solution.
Oui, c'était une grosse problématique et je suppose que on a vu là les faiblesses aussi de la connexion par VPN qui n'était pas simple ni à mettre en œuvre pour quelqu'un qui se retrouvait en remote. Mm-hmm. Définir un scope, un airbag en fait pour les personnes qui avaient besoin de travailler sur telle chose, parce que là on parle d'infrastructure, mais le travail en remote est beaucoup plus large que ça.
Mm-hmm, bien sûr.
Bon, pour beaucoup, ça veut dire ouvrir tout, ouvrir le réseau et puis peut-être même donner plus que ce qu'ils n'avaient avant quand ils n'étaient pas en remote.
Ah mais bien sûr, parce que là, en fait, si tu veux, c'est du fait que c'est assez complexe en fait à manager. Souvent, en plus, quand on est dans l'urgence, on a tendance à prendre des raccourcis. Donc, moi, j'ai été longtemps utilisateur d'un client VPN, d'un Cisco AnyConnect, pour ne pas le nommer. Hein. C'était un très bon client en VPN, on va dire ça comme ça, qui marchait avec des fichiers de conf que je devais à peu près reconfigurer quasiment une à deux fois par mois parce que la conf sautait et que c'est compliqué. En plus, il faut gérer son password parce que c'est un autre password. Et ensuite, une fois, on se connecte. Après, ça marche une fois sur deux. Parce qu'il faut sélectionner sur quel serveur on va se connecter par rapport à quel endroit on se trouve. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, toute cette utilisation, en fait, elle n'est pas très user-friendly. Et moi, je suis de l'IT. Donc, imagine pour quelqu'un qui, en fait, travaille dans une banque et a besoin juste de se connecter à son application bancaire ou à son application sur laquelle il travaille au day-to-day et qui n'a strictement aucune idée de ce que c'est un client VPN à la base.
Alors, tu as parlé du proxy. C'est intéressant de se dire qu'on a un proxy parce que le proxy... il sert à faire ce que tu viens de dire, mais tu peux lui ajouter pas mal d'autres fonctionnalités. J'imagine que l'une d'entre elles et qu'une entreprise est à même d'apprécier, c'est de pouvoir auditer aussi.
Exactement. Alors, dans Boundary, parce que parlons un peu de Boundary, il faut rappeler qu'aujourd'hui, comme je disais, c'est une solution qui a été annoncée il y a 2 mois, donc qui est en OSS, bien évidemment, comme la plupart et comme toutes les solutions d'ailleurs de HashiCorp, et qui aura certainement une version Enterprise à terme, sur des fonctionnalités bien précises, purement dédiées à des entreprises. On est aujourd'hui en version 0.1.2. Donc, autant dire qu'on est vraiment aux prémices de Boundary. Donc aujourd'hui, on supporte un certain nombre de fonctionnalités qui vont être, je dirais, fonctionnelles, mais assez basiques. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on est sur un IAM statique, c'est-à-dire je crée un user password dans Boundary. Il est clair qu'à terme, ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite, parce qu'on a une solution notamment qui s'appelle Vault et qui peut être intéressante pour ce type d'accès. Alors en tout cas, déjà à minima, pouvoir s'intégrer avec des méthodes d'authentification à la mode de Vault. Justement, la première sur laquelle on travaille, c'est l'OIDC, et après, on va travailler sur d'autres au fur et à mesure. Mais aussi derrière, il y a un autre point intéressant, c'est que pour l'instant, on doit donner nos credentials. C'est-à-dire que quand je veux me connecter sur une machine en SSH à travers Boundary, je dois donner ma clé et mon user. À terme, c'est ce que l'on souhaite faire et intégrer, c'est avoir Vault qui va dynamiquement générer ces accès que l'utilisateur ne connaît et ne connaîtra jamais, et donc déjà aussi pour sécuriser autant plus cette partie-là. Maintenant, tu parlais d'audit, et donc quand on parle d'audit, on peut parler de session recording, on parle en fait de tout ce que l'on va retrouver justement dans des solutions, comme on disait au départ, type Bastion. Ce sont des choses qui sont en roadmap, qui ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir à travers Boundary, c'est le fait qu'on peut voir les sessions, lesquelles sont actives et depuis quand. Et éventuellement, les canceler soi-même en tant qu'admin et faire ça, d'accord ? Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'un session recording, ça nécessite un peu d'infrastructure malgré tout. Parce que là, on a, imagine, je ne sais pas, là, c'est pas, j'ai pas deux users qui se connectent et on fait du session recording pour deux users. Le truc, c'est d'avoir quelque chose qui scale quand même. Donc, c'est, voilà, toute cette mécanique-là, elle est prévue, elle est dans la roadmap, elle n'est pas encore ici, mais elle est prévue. Parce que c'est justement une des problématiques dont on a besoin, c'est de savoir, oui, donc, j'ai bien sécurisé tous mes accès utilisateurs, j'ai bien validé mes droits et tout ça, mais par contre, ça ne m'empêche pas, de faire un sudo sur un serveur et de faire n'importe quoi. Donc, c'est là où le session recording rentre en compte et la partie audit, notamment, comme tu dis.
Revenons donc à la description de ce que fait Boundary et comment je l'utilise.
Oui.
Alors, donc je suis un utilisateur qui doit me connecter à une machine.
Oui.
Comment ça se passe pour moi ? J'ai un client à télécharger ou alors je passe par le web directement ?
Alors, non, c'est pas le web. Nous, on fonctionne avec un petit client en Go, en fait, qui est globalement le même qui fait tourner le serveur. C'est toujours pour l'instant l'approche qu'on a gardée aujourd'hui. Il me semble avoir lu dans la roadmap que justement on allait travailler sur un desktop CLI, donc peut-être une version un peu plus light du binaire Boundary, qui est un binaire Go, comme tout ce qui est fait chez HashiCorp, et qui fonctionne aussi bien sous Windows, Mac, Linux, ARM, tout ce qu'on veut en termes d'OS. Et donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai deux choses à faire. J'ai trois étapes. La première, c'est de configurer mon contrôleur Boundary. Donc, c'est-à-dire, j'ai déployé quelque chose au niveau cloud, dans une DMZ, peu importe, ce qui est mon contrôleur et qui est en fait le système qui gère toute la partie identification, toute la partie, gestion des rôles airbag et tout ce qui va avec et les hosts qui sont connectés dessus. De mon côté client, je dois juste dire, voilà, je pointe sur telle URL pour que mon client puisse se connecter. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise une commande qui s'appelle Boundary Authenticate, donc qui pour l'instant n'utilise que la méthode password, parce que c'est la seule qui est disponible, et donc je rentre mon utilisateur et mon password qui a été créé au niveau de Boundary. À partir de ce moment-là, ça m'authentifie et ça me donne un token. Ce token qui va être réutilisé, alors si on connaît un peu Vault, les tokens, tout ça, ça parle un peu, qui va être, donc il y a bien sûr une durée de vie limitée, bien évidemment, et qui va me donner autorisation à en fait ce qui a été défini au niveau de mon scope dans Boundary. Une fois que j'ai fait ça, je fais un Boundary Connect et là j'ai SSH, RDP, PostgreSQL et quelque chose qui est plus large qui s'appelle exec et qui nous permet en fait d'exécuter tout type de commandes sur les systèmes auxquels j'ai accès, c'est bien important. Donc en fait, tu vois, si je fais Boundary Connect SSH, je définis. Et c'est là où ça devient un poil complexe, je trouve, par rapport à l'utilisation que j'ai pu en avoir jusqu'à aujourd'hui. C'est on définit une target name, en fait, qui est donc une target, un groupe de hosts qui ont été définis. Et il va en choisir un dans cette liste. Donc, bien sûr, on essaye de grouper les hosts en fonction de leur fonction, parce que sinon, ça ne sert à rien de mettre un groupe. Donc, bref, ne rentrons pas trop dans la complexité du truc. Je me connecte et en fait, je mets username, password ou username et la clé. Et ça me connecte, et après j'ai une session SSH comme si j'étais directement sur la machine. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit en fait, c'est que quand ça se lance en 127.0.0.1 avec un port dynamique, parce qu'en fait c'est de ma point de vue machine, je suis connecté localement. Et c'est mon client Boundary avec le worker qui font toute cette notion de proxification, TLS bien évidemment, parce qu'on sécurise les flux, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, et qui me donne accès aux machines distantes.
Alors maintenant, si je me mets d'un point de vue plus administrateur de la solution,
oui.
Et où je dois la déployer en entreprise,
mm-hmm.
ou chez moi,
mm-hmm.
comment ça se passe ? Alors, je lance de la même manière le binaire, tu as dit que c'était le client et le serveur, c'est ça ?
Oui, alors il y a une particularité aussi sur les outils HashiCorp, c'est qu'on a tout le temps un mode dev qui permet justement de tester, et c'est ce que j'utilise moi-même sur mes environnements qui sont dans le cloud. J'utilise Boundary en mode dev. Alors, c'est mal, parce que c'est, mais bon, c'est de la démo, donc c'est pas très grave. Et donc, ça permet en fait de lancer un all-in-one Boundary. Parce que qu'est-ce que ça représente, Boundary ? C'est pas juste ce binaire Go, c'est on est aussi attaché à une base de données. Pourquoi ? Parce que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est on a besoin d'un state, on a besoin d'un état, il faut le stocker quelque part, et justement, c'est aussi pour préparer tout ce qui est session recording et ce qui va arriver derrière. C'est de pouvoir stocker ça, effectivement, d'une manière centralisée. Donc aujourd'hui, c'est quand on déploie en fait un Boundary en mode dev, ça déploie automatiquement un container Boundary et un container Postgre associé à ça, et ça configure l'ensemble. Et ça fait du all-in-one. Donc on a le contrôleur et le worker qui sont dans le même binaire et la partie Postgre. En vrai, en production, j'aurai mon Boundary en contrôleur, donc en mode 3 nœuds, parce que toujours la redondance et ainsi de suite, attaché à une base de données Postgre. Alors, tant qu'à faire, si on est dans le cloud, on prend un service qui est managé, c'est plus simple. Et derrière, des workers qui, eux, vont certainement, et on recommande ça, d'ailleurs, on a une architecture de référence, dans des auto-scaling groups, si c'est AWS, ou dans des scaling groups, peu importe le type de cloud, qui vont pouvoir être justement apporter cette scalabilité horizontale et qui, eux, vont accepter la connexion client entre le client et le serveur ou l'application in fine à laquelle on souhaite accéder.
Comme d'autres avant vous, n'hésitez pas à soutenir ce podcast sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous bénéficiez d'un accès anticipé aux épisodes et vous pourrez jeter un œil aux coulisses virtuelles du podcast. Rendez-vous sur patreon.com/electromonkeys.
Ces machines sur lesquelles je vais démarrer Boundary, c'est l'équivalent du Bastion avant, sauf que je ne me retrouverai pas directement sur cette machine.
Ah, en fait, on n'est jamais sur cette machine contrôleur. Le contrôleur, il est juste là pour valider l'identité et gérer toute la partie autorisation et configuration. Donc, en tant qu'admin, c'est là que je vais me connecter. Et donc, après, tout se passe directement entre une connexion entre le worker et le client, directement, qu'on a sur son laptop. Donc, ce qui nous permet justement de faire un découpling un peu, si tu veux, ce qui est très à la mode entre le control plane et le data plane, si on peut appeler ça comme ça. Ce qui revient à faire ce qu'on fait avec du SDN ou avec d'autres systèmes, justement de pouvoir découpler en fait ces deux tâches et donc justement d'être plus scalable.
Donc une fois que j'ai lancé mon binaire,
oui.
J'ai besoin de le configurer évidemment, tout le modèle Airbag, les permissions
oui.
que je veux donner aux individus, comment ça se passe ?
Alors on a une notion de domaine en fait dans Boundary. Est-ce qu'on peut rapidement faire un parallèle en fait avec ce que l'on trouve dans les modèles IAM que l'on retrouve dans tous les clouds en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on va donc se créer un principal, donc un nom, d'accord, un username, sur lequel on va attacher des comptes. Ces comptes, c'est ceux qui vont être attachés à des méthodes d'authentification. Comme je disais, pour l'instant, on n'a que password. Demain, OIDC. Demain, LDAP, Active Directory, tout ce qu'on veut derrière, dans tout ce qui est système d'identité. Donc, ce principal, quand on utilise un compte pour se connecter, ce compte lui-même est attaché à différents scopes. Dans les scopes, c'est là où je vais définir quelles sont mes actions, à quoi j'ai. Donc, dans les scopes, pardon, c'est là où on va recenser pardon, l'ensemble des ressources. Et au compte, on va lui définir un scope auquel il a accès. Alors là, moi, dans mes démos, j'utilise un scope étoile de partout parce que c'est plus simple. C'est mal toujours, je sais, mais comme je dis, c'est de la démo. Après, je travaille sur des démos où je ferai des rôles un peu, un roleplay avec différents comptes. Mais voilà, c'est de dire, comme quand je définis en fait ma policy IAM dans un compte AWS, c'est je t'autorise à faire ci, ça et ça sur tel scope et pas plus. Donc, c'est ça en fait ce que l'on a intégré aujourd'hui dans Boundary. Donc, c'est une approche, je dirais, qui est plutôt... qui fait sens, qui est plutôt dans l'air du temps aussi et qui est, comme je disais, bah déjà de base basée sur des identités et donc justement sur des définitions d'autorisation.
Et dans ce scope, alors, je peux mettre quoi ? Si je ne mets pas étoile, je mets un nom de machine, des adresses IP, un réseau, un sous-réseau ?
Alors, des adresses IP, jamais. Non, on va se baser plutôt sur des ID, en fait, qui sont à l'intérieur de Boundary. Et donc, ces ID, je vais avoir des ID pour des hosts. Alors, j'ai plein de notions. J'ai le host set, le host catalogue qui contient des hosts et des host sets. Parce que je peux avoir dans un même catalogue des hosts qui ne sont pas dans des host sets parce qu'il n'y a qu'une seule machine qui fait ce rôle dans mon infrastructure, par exemple. Les host sets, c'est imagine, j'ai 15 frontaux web qui délivrent les mêmes applications. Je veux me connecter dessus. J'ai pas envie de savoir lequel sur lequel je vais me connecter. Donc, je vais créer un host set qui prend ces 15 machines et c'est Boundary qui décidera sur lequel il ira se connecter et qui fera, entre guillemets, un pseudo équilibrage de charge, si tu veux, entre ces différentes machines. Après, une fois que j'ai défini ce host catalogue, je définis des target ID. Et donc, dans ces target ID, j'attache en fait des host sets à l'intérieur de ces target ID. Et donc, dans toutes ces ID, c'est là où je sais que je peux gérer en fait au niveau IAM, au niveau scope, pardon, de mes comptes, sur quel subset je vais donner accès. Tu vois, donc, c'est vraiment cette notion de domaine, parce que je peux créer des organisations, plusieurs organisations, à l'intérieur de ces organisations, plusieurs projets, et à l'intérieur de ces projets, plusieurs host catalogues, target et host set, et ainsi de suite.
Donc, j'ai mon ID, moi, qui est Steph, et je l'associe à un scope qui va me dire que j'ai accès à 3 machines qui sont dans un host set, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, globalement.
Et donc, on peut dire que, est-ce que dans mon scope, il y a aussi le fait que, enfin, ma target, ça va être aussi la méthode de connexion ?
Oui, ça peut être aussi ta méthode de connexion, et ça peut même aller jusqu'à, en fait, qu'est-ce que tu as le droit de faire aussi. Alors, tout n'est pas encore là, comme je disais, parce que c'est un produit qui est tout neuf et qui évolue, mais c'est le principe, c'est de dire, voilà, on va même pouvoir aller jusqu'à quel type de commande SSH tu vas pouvoir passer ou faire sur les machines. Voilà, on va aller jusqu'à ce niveau de granularité, en fait, à terme, sur Boundary.
Pour établir cette connexion entre mon laptop et la machine que je veux utiliser,
oui,
il y a quand même pas mal de flux.
Oui.
Donc, il y a des ports à ouvrir, des choses comme ça. Je voulais savoir comment je m'assure que j'ouvre les bons flux et que les flux nécessaires.
Alors, en fait, c'est ça qui est, comme tu dis, assez intéressant là-dessus. C'est le fait que entre le client et Boundary, c'est grosso modo, il y a 2 ports. C'est tout. Donc, c'est dans le 9000, donc tu en as même, allez, disons 3 grands max, 9000, 9001, 9002 de mémoire, ou 92002, mais bref, j'ai un doute. Mais c'est dans ces eaux-là, c'est ce genre de port. Donc, bien sûr, qu'ils peuvent être configurables, peu importe, mais c'est tout ce dont j'ai besoin à exposer sur Internet. Le reste, en fait, si tu veux, imagine que ton Boundary, son worker, il a une patte publique, il a une patte privée, ou une patte en tout cas sur laquelle il va accéder à un réseau qui lui va être derrière un firewall et qui va lui donner des accès. Et donc c'est là en fait du coup où je vais avoir les accès qu'il va falloir que j'ouvre. Mais je n'ouvre ces ports uniquement que pour mes workers et pas pour l'ensemble des autres machines. Donc certes, il n'y a pas toujours que de la magie, hein, y a quand même des choses à faire bien évidemment, mais c'est juste que voilà, c'est la manière dont ça fonctionne.
Est-ce qu'il y a un mapping qui est possible entre... Alors, c'est peut-être plus difficile parce que ça voudrait dire plus d'intégration par rapport au cloud provider, mais est-ce qu'il y a un mapping possible entre ce qui est la partie IAM des cloud providers et le scope que je peux avoir?
Alors, est-ce que... aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on intègre, mais c'est potentiellement une voie que l'on explore. C'est effectivement d'avoir... cette possibilité de... j'ai un rôle IAM qui me donne accès à quelque chose au niveau AWS et qui va me donner quelque chose équivalent dans Boundary. Après, la problématique qu'il y a dedans, c'est que si j'utilise malgré tout, parce qu'il y a quand même des limites à tout ça, c'est si j'utilise un IAM AWS, ça va concerner principalement AWS. L'intérêt de Boundary, c'est de donner accès à tout type de système, qu'il soit dans AWS, dans GCP, et pas forcément être obligé de se reconnecter à chaque fois avec un IAM différent ou qu'une identité différente pour se connecter à Boundary, pour avoir accès à un subset différent. Certainement que c'est des choses qu'on regarde. Comme je disais, on est encore tout jeune sur ce biais-là. Mais c'est malgré tout le but de Boundary, c'est quand même d'être le plus agnostique possible. Et donc... d'avoir en fait différentes méthodes d'authentification qui vont te donner des autorisations quand même assez globales sur les scopes. Quand je dis global, c'est-à-dire que on va essayer malgré tout, tu vois, de même si tu as, c'est pour ça qu'on a ce principal en fait, ce user qui va pouvoir recenser plusieurs méthodes d'authentification et qui va potentiellement pouvoir permettre d'agréger en fait un peu ces scopes.
Est-ce que les autorisations seront définies donc dans le token, c'est bien ça?
Alors, elles sont définies au niveau de Boundary et qui vont être bien sûr concaténées dans le token. Ce token, c'est ce qui va permettre de te réauthentifier à chaque fois que tu fais des appels à Boundary. Donc, quand tu fais un connect, en fait, tu dois passer le token. Donc, ce que fait par défaut le client, c'est que bien sûr, il le garde, entre guillemets, si tu veux, dans ses variables d'environnement au moment où tu t'authentifies. Et donc, ce qui te permet, toi, de pas le garder en tête et de le repasser à chaque fois. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir, du coup, même si on pense à autre chose, c'est pouvoir même... Parce que là, on est vraiment dans un process humain to machine, mais on pourrait aussi imaginer un process machine to machine pour communiquer et monter justement des tunnels entre des applications de différentes, sur différentes régions ou différents réseaux et passer par ce biais-là et taper justement à travers ces API, conserver le token et passer derrière sur la partie Boundary.
Ok, dernière question sur Boundary.
Oui.
T'as parlé donc de policy qui était en train de se structurer, de se mettre en place et, de votre côté. Et est-ce que vous envisagez d'utiliser des choses connues comme Open Policy Agent et d'utiliser Rego pour ces policies ou vous explorez d'autres pistes?
Tu n'es pas sans savoir peut-être qu'on utilise déjà un outil de policy interne qui s'appelle Sentinel, qui est aujourd'hui sur toutes les solutions que l'on a. Donc certes, c'est une feature enterprise, mais c'est vraiment aujourd'hui l'effort qu'on a fait de créer notre propre outil, notre propre langage en fait de policy as code qui est Sentinel et qui est donc transverse de Terraform jusqu'à Nomad. Donc si un jour on devait intégrer quelque chose, j'ai tendance à penser que ce serait Sentinel. Mais Sentinel a aussi tendance à s'ouvrir aussi sur justement pouvoir importer des policies externes et potentiellement... Alors, je ne veux rien dévoiler là parce que je ne suis pas PM et ce n'est pas moi qui tient la roadmap entre mes mains, mais on réfléchit justement à une ouverture un peu plus autour de Sentinel pour pouvoir s'intégrer avec d'autres systèmes de policy parce que bien sûr, on n'est pas le seul. Après, l'avantage que l'on a avec Sentinel, c'est qu'il s'intègre parfaitement avec nos solutions.
Oui.
Parce qu'il a été fait pour ça à la base. Donc, c'est vrai que c'est plus facile d'intégrer Sentinel qu'autre chose. Mais voilà, quand on n'a pas que des outils HashiCorp, ça fait sens de pouvoir être un peu plus ouvert.
Mmh. Alors, l'autre nouveauté dont tu nous as parlé, c'est Waypoint.
Oui.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est, ce que ça fait?
Ah, grand sujet. Donc, en fait, si tu veux, c'est bien qu'on parle de ce sujet-là, parce que quand on a parlé de Boundary, on est quand même dans un monde assez opérationnel. C'est comment je donne accès à des utilisateurs, à des applications. Ça n'a rien à voir avec du dev, c'est purement et simplement de l'opérationnel. Terraform, Vault, Consul, Nomad, on est quand même très très orienté malgré tout côté Ops, bien que Nomad a aussi cette API Northbound, parce que ça fait à la mode de dire Northbound, Southbound, East-West, tout ça, Nord-Sud et autres. Donc l'API Northbound qui est plus orientée développeur, parce que là c'est on donne la possibilité, comme à Kubernetes en fait, c'est à peu près la même approche, de dire ah là, bah tiens, décris-moi comment ton application doit tourner, et nous on s'occupe de la faire tourner derrière. La problématique à laquelle on répond avec Waypoint, c'est plus de s'intégrer en fait dans un workflow global. Donc, si tu veux, quand tu es développeur, tu écris ton code, tu écris tes tests, si tu es un bon développeur, et ensuite, tu passes dans une chaîne qui doit être le build, le deploy, le release, et après, tu as le maintien de l'opérationnel au niveau applicatif, et ainsi de suite. Donc, nous, en fait, avec Waypoint, c'est là où on se positionne, c'est pour répondre à la problématique de build, deploy, release. Comme on le fait toujours au sein d'HashiCorp, c'est on pense workflow avant technologie, parce que c'est des workflows des technologies qui existent déjà pour répondre à ces briques-là. Il y en a pléthore et de toute façon, ça s'accélère de plus en plus sur justement le nombre d'outils que tu peux avoir. Il suffit de regarder le tableau périodique du DevOps et pour avoir mal au crâne. De voir tous les outils qui existent et qui sont disponibles pour faire plus ou moins la même chose.
Ou le landscape de la SNCF.
Ouais, voilà, ou le landscape de la SNCF, tu vois, c'est pareil, c'est des trucs de folie, il y a des centaines et des centaines d'outils. Bref, là, le but de se dire, c'est nous, ce qu'on veut proposer, c'est un workflow unique pour build, deploy, release. Que ce soit simple, que ça utilise quelque chose qui est toujours descriptif et donc tu vois où je veux en venir avec ça, si on utilise du HCL. Donc, il va aussi à travers ce langage qui est maintenant utilisé partout dans les outils HashiCorp. Pas partout, par tout le monde encore, mais ça, on y travaille. Mais c'est que c'est un langage qui te permet aussi d'utiliser des fonctions, donc qui n'est pas juste j'écris des choses simples avec la description. C'est on a aussi des fonctions à l'intérieur qui sont dans le langage propre, qui vont te permettre d'avoir, en fait, notamment, par exemple, d'automatiser des pièces, en fait, si tu veux, par exemple, pour, je sais pas moi, récupérer des tags de ton guide pour attacher ça en tant que label à ton image, tout ça. On n'écrit pas tous tes labels, on dit juste, voilà, git ref attribute, quelque chose comme ça, et hop, il le prend et par défaut et il va directement gérer ce genre de choses. Donc, c'est tout ce type de fonctions qui viennent on top. Et donc, principalement, parce que je m'égare un peu à droite à gauche, c'est le but, c'est de dire, OK, écrire le code, faire les tests, ça, c'est ce que fait le développeur au day-to-day, et c'est très bien, il le fait très bien. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on veut lui simplifier la vie pour que dans un seul et même workflow, donc, il build, peu importe sur quoi, c'est ça qui est important, il déploie, peu importe sur quoi aussi, et on va gérer jusqu'à la release. Et donc là, on va travailler sur du Canary, du Blue Green, peu importe, où on va en fait jusqu'à gérer le load balancing ou la gestion en fait des flux pour dire voilà, j'ai ma nouvelle version qui est déployée, donc ma V3. Par contre, je suis encore sur une release V2, je fais mes tests et hop, je passe après sur un waypoint de la même commande pour ensuite réaliser la V3 parce que j'ai validé qu'elle était fonctionnelle. Donc voilà en fait tout ce que l'on propose là-dedans. Et donc, si tu veux, pour résumer en fait en une phrase, c'est la plomberie, c'est pas le boulot des devs. Ça, c'est le boulot des ops. Donc, on est la couche d'abstraction qui est on top de la plomberie. Et la plomberie, ça peut être Cube, OpenShift, Nomad, du Lambda, du Cloud Run de chez GCP, peu importe. Tout ça, c'est de la plomberie. Et nous, on vient juste on top de ça et de dire, voilà, nous, c'est la plateforme d'abstraction qui vient en fait au-dessus de tout ça et de cacher cette complexité et faire en sorte que ça devienne plus simple pour les devs.
Donc, si je t'ai bien suivi, et corrige-moi si je me trompe, ce workflow-là vient en fait interagir et s'intégrer avec d'autres outils qui vont permettre de faire le build, par exemple, ou de faire le déploiement.
Alors, exactement. Alors, ce n'est pas foncièrement des outils, mais on va appeler ça des plugins. Comme Terraform a ses propres providers, on a les propres plugins dans Waypoint. Et donc, on va avoir des plugins de build, des plugins de registry ou d'artifact, si je veux, si je peux exprimer ainsi, des plugins de deploy et des plugins de release. Donc, ce qui fait, si tu veux, que... Alors, bien sûr, là, on est en version 0.2.0 et là, ça, ce projet-là a une particularité, c'est que c'est Mitchell est partie prenante dans le développement. C'est-à-dire que je le vois dans la channel Slack, il est là, il code sur Waypoint. il est revenu un peu, tu vois... Comme quoi, on a des CTO assez actifs quand même et qui restent dans leur premier amour. Donc, bref, donc cette notion de plugin qui va permettre dans un premier temps de supporter un certain nombre de choses. Donc typiquement dans le build, on est sur tout ce qui est les build packs, Docker et encore un ou deux outils utilitaires de build que l'on va pouvoir utiliser. Dans l'artifact, on est artifactory et Docker dans un premier temps, parce que on prend un peu les standards du marché aussi, hein, faut pas se leurrer. C'est si tu vas avoir une adoption rapide, tu prends déjà ce qui fonctionne et ce qui est utilisé, tu vas pas prendre le truc de niche que personne n'utilise.
Ça fait du sens.
Dans le deploy. Ouais, voilà, c'est logique. Dans le deploy, on va être alors, Nomad forcément parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais Kubernetes, Docker, on a EC2, ECS, Lambda de mémoire. Et après, dans les releases, on est pareil sur Kubernetes et d'autres. J'ai oublié parce que je n'ai pas tous en tête, mais voilà, à terme, c'est de pouvoir justement gérer tout ça.
Quelque chose de très intéressant, c'est de se dire que mon workflow va être découplé totalement des outils. Jusqu'à maintenant, si j'avais une chaîne de CI/CD, c'était la chaîne de mon outil, peu importe celui que j'utilisais.
Oui.
Là, en train de me dire que finalement, c'est un workflow que les devs vont pouvoir s'approprier.
Exactement.
Et qui est indépendant des outils, puisque on pourrait changer un plugin pour un autre et donc utiliser un outil pour un autre.
Exactement. Et donc, en fait, si tu veux, quand tu as par exemple, aujourd'hui, tu dis, je build avec Docker, demain, je vais builder avec Cloudpak, ça ne change pas ton workflow. Tu vas juste dans ta configuration de ton projet, Waypoint, et dedans, tu vas dire, bah, voilà, donc, si j'avais ma ligne, ma stanza de configuration build, use Docker, bah, je vais mettre use pack à la place. Et that's all. Le reste derrière, comment il se connecte, quoi que ce soit, tout ça, c'est pas au dev de gérer. Tout ça, comme je disais, c'est la partie ops. Est-ce que la registrie est disponible, c'est le problème des ops. lui, il configure son truc et après, il fait une commande qu'on utilise qui s'appelle waypoint up, qui est un peu, c'est pour ça que tu me posais justement à juste titre des questions sur un Docker Compose-like, mais c'est cette particularité, c'est justement d'avoir en fait cette possibilité d'être totalement pluggable et de s'intégrer avec à peu près tout. Ça, c'est le goal final, ça ne veut pas dire qu'on y est déjà. Mais déjà, on a quand même un beau écosystème qui est autour de ça. Et surtout que, en fait, ce que fait le dev, lui, il dit, bah, OK, moi, c'est mes commandes. Les celles que je connais, c'est waypoint up, waypoint build, deploy, release, si je veux faire un truc spécifique, waypoint exec, waypoint log. C'est à peu près tout. Après, que ça déploie sur telle région, que ça déploie une VM, parce qu'on s'intègre notamment avec Terraform, par exemple. Est-ce que ça déploie une VM? Est-ce que ça déploie... Enfin, lui, il le définit parce que c'est ce dont il a besoin. Mais comment c'est fait derrière? C'est pas sa problématique.
Moi, je choisis des éléments dans cette chaîne où j'utilise la chaîne telle qu'elle a été configurée.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Si tu veux, c'est Waypoint, il est déployé de manière centralisée sur un équipement et le serveur, j'entends, d'accord? Et c'est lui, pareil, qui va gérer le state de tout ce qui est configuration et des applications qu'il a à gérer. Ça, c'est la partie op, c'est comment on l'a déployé, comment c'est géré, ainsi de suite. Ce que fait la partie dev, c'est lui vraiment... Alors, si tu veux, à minima, il doit savoir sur quoi il veut déployer. C'est-à-dire, il doit juste dire, je veux utiliser Kubernetes parce que c'est ce que j'utilise chez moi et que c'est ce que je veux utiliser. Ou j'utilise EC2, ou j'utilise ECS. Après, la partie configuration, c'est pas du tout son souci. Il dit juste, moi, je veux déployer en utilisant telle plateforme. Il définit ça, il configure ça, et donc, dans chaque step, il définit quelle plateforme il veut utiliser. Ça, c'est comme quand on construit un pipeline, si tu veux. Quand tu construis un pipeline dans une chaîne CI/CD, tu dis que tu veux utiliser tel outil de build pour builder ton application, parce que tu le sais déjà. Tu dis que tu veux utiliser telle plateforme, en général, c'est Docker, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on reprend un peu ce même principe, mais c'est juste que, voilà, on le simplifie, entre guillemets.
Le 11 mars prochain, Aurélien Violet nous expliquera où trouver de bons contenus DevOps et Cloud Natif en français. Il sera suivi d'une présentation sur Let's Encrypt sous Kubernetes avec Cert Manager et Traffic par Jérôme Petazzoni, mon invité dans l'épisode 11. N'oubliez pas, c'est le 11 mars à 17h et vous pouvez retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Donc sur la partie serveur, je vais avoir deux méthodes de build qui vont être les buildpacks par exemple et Docker.
Oui.
Ça, c'est l'intégration avec ces outils-là, c'est l'Ops qui doit s'en charger.
Oui. Alors, oui.
Par contre, le fait de les utiliser, ça ne dépend que du développeur qui va dire pour ce workflow-là, je vais utiliser Buildpack, et pour ce workflow-là, j'utilise Docker.
C'est ça.
Il n'a pas à se soucier si ça a été intégré par l'Ops ou pas. Enfin, ça ne marchera pas, évidemment, si ça n'a pas été intégré.
Si le plugin n'est pas présent de base, effectivement, ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça.
Et la configuration du plugin est bien du côté de l'Ops.
Voilà, oui, tout à fait.
OK. Donc, le développeur aujourd'hui, est-ce qu'il est amené à faire des releases en production ou sur plusieurs environnements? Donc, comment ça va se passer quand on va dire je veux déployer sur mon environnement de staging ou je veux déployer sur mon environnement de production?
Ça, c'est pareil, c'est dans la configuration, en fait, sur ce que tu vas utiliser. Ça peut être notamment attaché à... en fait, si tu veux, ce qu'on a cette notion de projet, et dans ce projet, tu peux y définir justement sur où tu souhaites le déployer d'une certaine manière. Alors, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, donc je voudrais pas dire n'importe quoi là-dessus, mais c'est justement le scope de l'application, le scope du projet et ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc, c'est là où, en fait, si tu veux, tu pourras jouer sur cette partie staging ou prod ou ainsi de suite. Mais je n'ai pas encore tous les éléments là-dessus. Donc je préfère pas dire de bêtises.
Tel que je l'imagine, en tout cas, ça devrait s'intégrer très facilement avec quelque chose comme GitHub Action.
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Encore plus simple pour le développeur qui tape aucune commande, en fait. Il va créer des actions dès le moment où il a poussé son code. Et automatiquement, ces actions peuvent avoir lieu.
Exactement, donc on va s'intégrer. On a déjà d'ailleurs des articles qui sont sortis par GitHub, par GitLab, par Jenkins, par CircleCI, pour justement toute cette intégration en fait avec leurs différentes technos. Pour les CircleCI, c'est les Orbs, pour tu dis GitHub, c'est GitHub Action, pour GitLab, c'est encore autre chose, et Jenkins, encore un autre. Et donc effectivement, on s'intègre directement dans cette chaîne de CI, parce que nous, on est plutôt sur la partie CD. D'accord ? Parce que c'est plutôt la partie CI qui va faire la reprise du code, écouter le Git et faire la partie testing et ainsi de suite. Et nous, on vient sur la partie build, deploy, release. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui fait qu'on s'intègre rapidement là-dedans.
Qu'est-ce que ça apporte au développeur ? Est-ce qu'il a un dashboard pour un peu voir son workflow, observer, avoir un retour sur son déploiement, ou c'est pas encore à ce stade le produit ?
Alors, on a déjà une UI qui est disponible, effectivement, au niveau de Waypoint, et qui va donner un certain nombre d'informations, notamment l'accès au terminal, voir les logs et des choses comme ça, voir le statut de son deployment. Donc, bien sûr, c'est les prémices aussi, hein, parce que, comme je disais, on est en 0.2, donc c'est le début. Mais on a déjà, effectivement, intégré cette partie-là. En tout cas, les fonctions basiques, je dirais, de cette partie-là, qui sont intégrées au niveau de Waypoint, oui, tout à fait.
Alors, tu l'as dit, l'écosystème d'outils de déploiement est quand même très chargé. Mmh. Pourquoi venir maintenant avec un nouveau produit ? Quel était le problème d'origine ?
Bah, justement, c'est un peu ça, en fait. Le problème, c'est que tu as pléthore d'outils. Et donc, si tu veux, l'approche que l'on propose avec Waypoint, comme je disais, toujours penser au workflow et pas aux outils, parce que les outils, c'est la finalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le workflow, donc ce qui est en amont. Et donc, du coup, là, ce qu'on propose, c'est en fait, si tu veux, c'est un peu le Terraform pour les devs, si je pourrais l'exprimer ainsi. Tu vois, c'est Terraform, il y a 300 providers, c'est devenu l'outil un peu standard, que ce soit en OSS ou en enterprise, de provisioning, d'infrastructure, peu importe où c'est, t'as pas à te poser la question de savoir comment je dois l'écrire pour tel ou tel cloud, telle ou telle ressource. C'est ce qu'on essaye d'apporter un peu avec Waypoint, c'est de se dire la même philosophie, mais d'un point de vue dev, c'est je ne dois pas me poser la question de comment je dois utiliser tel outil, est-ce que c'est celui-là plutôt qu'un autre, ou ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est j'utilise ma commande Waypoint, je définis toujours ce projet de la même manière que j'utiliserais un langage descriptif pour gérer de l'infrastructure, c'est les mêmes approches. Et donc, du coup, si tu veux, c'est quand même beaucoup plus simple. Dans le sens où, si tu veux, par exemple, tu pourrais utiliser du Helm, mais le Helm, c'est très Kubernetes. Et qu'est-ce que je fais si j'ai pas de Kubernetes, en fait ? Tu pourrais utiliser d'autres outils qui sont souvent attachés à une seule et même, en fait, techno qui est sous-jacente. Là, le but, c'est vraiment d'être totalement agnostique et de fournir cette couche d'abstraction. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des outils qui existent déjà et qui le font pas déjà, bien évidemment. On n'a pas, pareil, inventé un truc qui est sur une problématique qui n'existe pas encore. Mais justement, vu que cette problématique existe déjà, on est parti du principe que, de notre point de vue, elle n'était pas foncièrement adressée de la manière dont nous, on souhaiterait l'adresser, toujours à travers ce workflow, ce pourquoi on a créé Waypoint. Parce que sinon, je pourrais te citer des outils comme Spinnaker, par exemple, ou du Argo, mais c'est pareil, ils ont derrière aussi leurs pros et cons, si tu veux, sur l'utilisation. Nous, ce qu'on aime bien aussi apporter par rapport à ça, et je pense que la communauté nous le rend bien, c'est qu'on essaye d'avoir des outils simples aussi à gérer. C'est vrai que, après, on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu regardes Nomad, Kubernetes, un binaire d'un côté, je sais pas combien de packages de l'autre, donc certes, après, il y a une adoption qui est différente entre les deux, mais c'est juste le principe même de base. Nous, c'est d'essayer de faire simple, quelque chose que tu peux mettre en place rapidement, que tu sais utiliser localement sur ta machine pour faire du dev et que tu auras la même expérience si tu passes en prod parce que le binaire est identique. Et voilà, c'est ça aussi l'intérêt, je dirais, de nos outils et de pourquoi Waypoint.
Alors avec Waypoint, je vais créer avec HCL, donc qui est le DSL de HashiCorp,
oui,
un fichier qui va décrire la manière, oui, dont je vais déployer mon application.
C'est ça. Donc, attention, la manière dont tu la builds, donc tu la déploies et dont tu la releases. Mm-hmm. Donc dedans, en fait, on a tout ce que, en fait, a en tête, entre guillemets, le développeur, c'est de se dire, OK, voilà, comment je la build, où est-ce que je veux la mettre, où est-ce que je vais stocker mon artifact aussi, mais sans la complexité, c'est juste, use Docker et use Artifactory. Voilà, c'est juste deux points qui sont à mettre dedans. Après, je dis, voilà, je veux déployer. Donc, bien sûr, après, la configuration peut être plus ou moins compliquée en fonction de ce que j'ai envie de faire, mais ça reste en fait défini dans cette partie deploy. Et après, là, je release et je dis, par exemple, que je veux utiliser, parce que je déploie sur Kubernetes, donc je veux utiliser le load balancer Kubernetes. Ou je déploie sur AWS et là, je veux utiliser la LB. Mais sans pour autant être expert en ALB, je dis juste, voilà, je vais utiliser la LB et voilà, en fait, comment ça doit se gérer derrière. De ce point de vue-là. Donc, c'est ces trois étapes-là qui sont importantes à définir.
Ouais, quand on doit déployer, réaliser une application, l'itinéraire de l'application ne suffit pas. Généralement, il y a tout un contexte de configuration, de valeurs qu'on veut lui passer en plus. Je veux qu'il y ait trois réplicas, par exemple, à mon application. J'ai accès à une base de données. Donc, j'ai un secret, on va prendre cette terminologie.
Oui.
Ou j'ai des configs parce que pour démarrer mon application Java, par exemple, j'ai des paramètres à lui passer. Comment je vais intégrer toutes ces informations-là à mon pipeline ?
En fait, tu as une stanza qui s'appelle config et qui va permettre justement de, pouvoir t'intégrer. Donc, le but sera à terme de s'intégrer avec Vault Consul pour, alors Vault, tu imagines bien, pour les secrets et Consul pour tout ce qui va être notamment service discovery et autres. Mais on s'intègre déjà notamment, par exemple, avec du Kubernetes où tu vas pouvoir lui attacher une config map et utiliser cette source externe pour configurer, en fait, par exemple, ton application de ce point de vue-là. Donc, de pouvoir justement récupérer des informations donc d'environnement, donc voilà, tel port je dois utiliser ou tel secret pour se connecter à telle base et ainsi de suite. Après, sur la partie deploy, c'est là où tu vas avoir plus justement la configuration sur tout ce qui est j'arrive à le sortir, ce que tu disais, notamment la scalabilité et autres. Voilà. Mais c'est, comme je dis, tout n'est pas encore sec, tout n'est pas encore disponible. Ça a évolué. Tu vois, on était, je t'ai dit, 0.2 déjà, et ça a 2 mois. Donc on a fait 0.1, 0.1, 2, 3, 4, 2, et ainsi de suite. Donc ça évolue et on apporte beaucoup de change au fur et à mesure.
Quand on évoque aussi le côté infrastructure immutable, on s'imagine aussi que les développeurs aujourd'hui, qu'ils soient sur Cube ou sur un autre environnement, vont être capables de déployer l'infrastructure en même temps que leur code.
Oui.
Alors, donc, typiquement, je suis sur Amazon et mon déploiement, en fait, c'est mon binaire, ma configuration, mais aussi les machines, le groupe de scalabilité, peut-être l'ALB, comme tu le dis, etc. Il y a une manière de grouper, en fait, ce que fait Terraform avec ce que fait Waypoint.
Alors, on a justement dans les tuyaux d'avoir un plugin Terraform pour justement intégrer directement Waypoint avec Terraform, parce que c'est aussi un but, notamment sur la partie aujourd'hui à minima AWS EC2, où là, ce serait justement d'aller pouvoir créer des VM. Alors, on dit AWS EC2, mais demain, ça pourrait être même aller, soyons fous, créer une VM sur VMware. Ou sur n'importe quel type de système, en fait. Parce que c'est justement l'intérêt de pouvoir se pluguer à travers ces plugins et de s'intégrer avec notamment Terraform. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont quand même encore, comme je te dis, de la fiction. Parce que tant que ce n'est pas là, je ne peux pas dire... Même la doc aujourd'hui, elle n'est pas extrêmement complète sur tout ce que ça fait et sur comment ça le fait. Là, il faut plutôt aller lire le code et regarder effectivement comment ça se passe. Mais c'est à terme, c'est quelque chose qui est prévu, effectivement. Parce que, comme je t'ai dit, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on s'occupe d'un workflow et déployer in fine que sur Cube, par exemple. Alors, quand je dis Cube, ça peut être EKS, JKE, peu importe. Mais que sur Cube, c'est on veut pouvoir faire tout type de choses. Et donc, le lambda, donc le serverless est une option. La VM traditionnelle en est une autre. Parce que malgré tout, c'est la VM encore de beaux jours devant elle, je pense.
Ouais. Donc typiquement, je voudrais, prenons ce workflow où je veux déployer, disons, une lambda. J'ai mon code qui va être buildé. Et après, donc, je vais dire que je ne sais pas quel... je peux utiliser GitLab, par exemple, pour faire mon CI. Récupérer ce binaire qui va me servir à être poussé dans lambda.
Oui.
Et est-ce que donc il y a toute cette partie versionning qui est prise en compte? Comment je gère tout ça? Comment je sais ce qui est déployé aujourd'hui?
Chaque fois que tu exécutes un waypoint up, il te génère un nouveau déploiement. Mais je voudrais pas aussi dire de bêtises là-dessus, sur ça, parce que j'ai pas encore totalement joué avec toutes les fonctionnalités et tout au niveau de waypoint, donc je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est quelque chose qui fonctionne de cette manière, et d'où la partie release, en fait, derrière, si tu veux, qui, lui, ne release pas tant que tu lui as pas demandé de releaser la nouvelle version que t'as déployée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important là-dessus. Et est-ce qu'il y a une spécification? Parce que si tu veux, en fait, si tu faisais par exemple un flow GitOps pur et dur, sans passer par la chaîne CI/CD, que tu pourrais très bien le faire, hein, tu dis voilà, bah, comme tu disais un peu les GitHub Actions tout à l'heure, c'est je mets à jour mon code Git, ça déclenche directement un waypoint up, donc il fait un build deploy release. Alors, release en fonction de ce que tu as envie de faire, comme j'ai dit. Et donc, tu refais une mise à jour, bim, ça redéploie encore une nouvelle version. Parce que c'est, tu vois, il incrémente, en fait, si tu veux, ce numéro de version au fur et à mesure. Et après, c'est au niveau de release, c'est là où on bascule sur le système d'URL, qui est d'ailleurs aujourd'hui géré par HashiCorp, mais pour donner une URL d'accès à l'environnement. Donc, voilà comment ça marche sur ce point de vue-là. Après, il faudrait que je creuse un peu plus.
Donc, dans Terraform, on a un état.
Oui.
Est-ce qu'on a ce même type d'état quand on fait un waypoint up où on est en mesure de comparer le fichier qu'on a créé par rapport à ce qui est déployé dans l'environnement?
Alors, on a un état qui est sauvegardé, c'est justement ce à quoi sert le serveur. Après, sur la partie lifecycle, j'avoue que j'ai un doute sur ça. Donc, je vais envoyer vers la doc ou sur un petit commentaire sur le podcast. Pour répondre à cette question. J'ai pas la réponse là tout de suite.
D'accord. Une dernière question sur Waypoint. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe aujourd'hui? Quelles sont les fonctionnalités que vous allez implémenter en premier sur lesquelles vous vous focalisez aujourd'hui?
Là-dessus, c'est augmenter l'écosystème dans un premier temps. Donc, c'est assez large en fait. On est encore en train, si tu veux, là aujourd'hui, de peaufiner la partie Waypoint. Donc, on a la particularité et aussi la chance, je dirais, d'avoir déjà une bonne adoption de cet outil. En fait, si tu veux, ça crée un peu le buzz. Pour une fois, c'est bien que ce soit nous qui le fassions. Et du coup, on a pas mal de retours de clients. Et là, aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler justement sur comment c'est adopté aujourd'hui et quels sont les freins ou quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer pour construire la roadmap. La roadmap en tant que telle, tu vois, elle évolue. On s'engage sur rien aujourd'hui parce qu'on est vraiment tant aux prémices. Tant sur Boundary, c'est assez clair de dire oui, j'ai besoin d'une méthode d'authentification parce que c'est évident. Sur Waypoint, c'est encore un poil différent sur justement comment optimiser ce workflow. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase de recueil et d'études et de recherche en fait sur les améliorations à apporter à la solution.
Donc tous les feedbacks sont bienvenus.
Exactement, donc surtout profitez-en. Mais tu vois, ça va être en fait des choses simples, mais comment faire et d'ailleurs, ça répond à la problématique parce qu'on a cette notion de workspace et c'est ce que tu disais notamment sur les environnements staging, dev, prod. Tu sais, c'est justement cette notion de workspace que l'on va avoir. Comment on promeut une version staging en prod, par exemple? Tu vois, des choses comme ça, pour le faire directement depuis Waypoint et pas foncièrement autrement. On a la partie access control, parce que pour l'instant, c'est un peu open bar, on va dire, sur comment j'accède à Waypoint, comment avoir des intégrations avec tout ce qui est chatops. Enfin bref, tu vois, il y a encore pas mal de choses qui sont dans la roadmap et d'ailleurs qui sont visibles sur notre site, hein, sur waypointproject.io. Où on peut regarder ce qu'il y a. Mais il faut savoir malgré tout que c'est très mouvant encore hein, sur ça.
Ok. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ces deux nouveautés.
Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de le faire.
Bah, avec plaisir.
Retrouvez Nicolas sur Twitter @myvworld et HashiCorp sur hashicorp.com. Si cet épisode vous a appris quelque chose ou simplement diverti, je serais ravi que vous en parliez autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Merci à Data Essential de soutenir ce podcast et à la semaine prochaine.